Nous continuons la lecture de la vie de saint Paul, principalement à travers les Actes des Apôtres, qui sont comme un récit historique, même s'il y a des imprécisions. C'est quand même ce plan-là que nous continuons de suivre. Et nous arrivons à ce qu'on appelle les débuts de la vie missionnaire de Paul. Nous devons nous souvenir quand même que la mission ne commence pas avec saint Paul. Elle s'inscrit dans un mouvement déjà engagé par Pierre et tous les autres apôtres, plus même que les 12, on pourrait dire les 72 déjà envoyés par Jésus, et surtout l'envoi du Christ après sa résurrection, tel qu'il est raconté par exemple dans l'évangile de Marc, où Jésus dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Donc là, nous sommes au lendemain de la résurrection. Alors, proclamer l'évangile à toute la création. Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle à annoncer au monde? C'est la résurrection du Christ à laquelle sont appelés aussi tous ceux qui auront foi en lui, et également le salut, c'est-à-dire la rémission des péchés. Voici ce que disait l'apôtre Pierre, si j'en crois donc le livre des Actes, chapitre 10, à partir du verset 42. Après sa résurrection d'entre les morts, il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est lui le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts, et que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Alors c'est bien plus vif peut-être pour une mentalité juive où le péché est tout le temps la grande question de la vie quotidienne, comment obéir aux commandements. Quand on n'obéit pas, c'est là qu'est le péché. Mais la mission des apôtres va donc commencer par Jérusalem et à partir de là rayonner pour commencer à convaincre les Juifs. C'est ça leur premier travail. Et ils eurent même des réticences à s'adresser aux païens. On sait par les Actes des apôtres que Pierre fut véritablement bousculé par l'Esprit-Saint pour arriver à accepter ce qu'en bon juif il considérait comme une horrible impureté, c'est-à-dire la fréquentation des païens. Donc il a fallu vraiment l'intervention surnaturelle pour surmonter l'aversion des païens supposés péchés. Mais même quand le principe d'universalité du salut fut compris, et à qui les apôtres gardaient encore l'habitude de s'adresser quand même plutôt aux Juifs quand ils commencèrent leur évangélisation. Parce que c'est quand même eux qui étaient normalement les plus aptes à comprendre. Mais bon, l'accueil des païens finit par s'imposer quand même. Et nous en sommes maintenant aux Actes chapitre 11 où nous voyons « Ils poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Voilà. Donc, dès le départ, il y a eu quelques convertis, peut-être juifs, mais d'origine grecque, de la diaspora, et ça a aidé, ça a poussé à communiquer avec les Grecs. C'est les premiers païens qu'on rencontrait. C'est donc à Antioche que s'imposa vraiment cette égalité de tous pour l'évangélisation. Et du coup, la communauté des croyants commença à grandir, à tel point que les apôtres à Jérusalem en furent informés. Et donc, la communauté de Jérusalem envoya quelqu'un à la fois pour donner un coup de main, pour aider, mais aussi pour un peu voir de quoi il s'agissait. Et cette personne, ce fut Barnabé. On en a déjà parlé. Barnabé, c'était un homme sage, habité par l'Esprit Saint. Mais surtout, ici, c'était un juif converti de Chypre. Donc, qui, mieux que lui, pouvait être utile à cette nouvelle communauté d'Antioche qui venait d'être évangélisée avec des disciples chypriotes. Voilà. Donc, on essaye toujours de trouver la bonne personne, celle qui convient le mieux pour envoyer. Alors, je rappelle quand même qu'ici, il s'agit d'Antioche sur l'Oronte. C'est alors considéré comme la troisième grande ville de l'Empire, hein. Aujourd'hui, en Turquie, paraît-il, Antakya, je ne connais pas, mais vous regarderez sur une carte, Turquie, tout ça. Mais après un court séjour à Antioche, le temps de bien s'intégrer au groupe des croyants, Barnabé fit un voyage éclair à Tarse pour aller y chercher quelqu'un, eh bien, son ami Saoul. Vous vous rappelez sans doute que c'est Barnabé qui avait accueilli Saoul à Jérusalem après sa conversion à Damas et qu'il avait recommandé aux apôtres. Donc ils étaient restés certainement en lien, au moins épistolaire comme à l'époque, mais Saoul était rentré chez lui à Tarse à cause d'un étrange problème que il faut que je vous cite. On peut le trouver dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Saoul allait et venait avec les apôtres dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Grecs et discutait avec eux. Mais ceux-ci ont machiné sa perte. L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. Voilà, c'est du style télégraphique, hein. On n'a pas toutes les explications sur cet événement. Pourquoi ces Grecs furent-ils si hostiles à Saoul? Peut-être ont-ils refusé ses propositions de conversion? Peut-être les arguments n'étaient-ils pas encore très au point pour Saoul? En tout cas, ce que nous devons remarquer, c'est que Saoul va spontanément vers eux et discute avec eux. Donc, il avait déjà le goût de la rencontre aventureuse. En vrai missionnaire, il a pris le risque d'aller vers des païens. Mais ici, la réaction fut négative, au point de risquer sa peau, et pour le mettre à l'abri des représailles, les frères le firent rentrer chez lui à Tarse. Là, au moins, il serait en sécurité. Et c'est donc là que son grand ami Barnabé va venir le rechercher pour lui demander de l'accompagner à Antioche, dans une communauté nouvelle, où les Grecs commencent à trouver toute leur place. On comprend évidemment ce choix de Barnabé, hein, puisqu'il a vu là-dedans tout à fait la vocation de Saoul et son utilité. Alors, ils restèrent tous les deux à Antioche pendant toute une année, nous dit les Actes. Et ils nous disent aussi qu'ils y instruisirent une foule considérable. Hein, chapitre 11, verset 26. Et de fait, Antioche devint la première vraie église chrétienne, c'est-à-dire une importante communauté religieuse totalement distincte du judaïsme. Et en fait, Antioche sera, pour le futur saint Paul, un vrai port d'attache pendant au moins 10 ans. Alors, l'époque où nous sommes là, c'est-à-dire les années 40, était visiblement assez dur, parce qu'il y avait régulièrement des famines. Et on voit que dans une famine, l'église d'Antioche, qui apprend qu'il y a une famine en Judée, décide d'organiser une collecte pour au moins envoyer une aide financière à l'église de Jérusalem. Et bien sûr, on envoie pour apporter l'argent Barnabé et Saoul, qui sont délégués pour cette contribution fraternelle. Le texte des Actes, chapitre 12, nous montre qu'ils doivent arriver à Jérusalem en pleine persécution des chrétiens par le roi Hérode. C'est à ce moment-là qu'on voit que Jacques, le frère de Jean, est mis à mort et que l'apôtre Pierre est mis en prison. Heureusement, miraculeusement libéré par un ange. Et un peu plus loin, le texte nous raconte d'ailleurs que ce même ange ou un confrère viendra frapper Hérode, qui mourra bientôt, nous dit le texte, dévoré par les vers. Je ne sais pas quelle est la mort dont qu'il a subie, mais ce n'est pas beau. Donc on est là en avril 44. Là, on a un repère historique objectif. C'est seulement quand l'église de Jérusalem retrouve un peu de sérénité que Barnabé et Saül se remettront en route vers Antioche. Mais cette fois, un nouveau venu va les accompagner. Il s'agit de Jean, surnommé Marc, qui va devenir missionnaire avec eux. On dit que ce Jean, Marc, est celui qui plus tard écrira le premier évangile, donc l'évangile de Marc vers 70 à peu près. La vie de Barnabé et Saül reprend donc son cours normal à Antioche. Mais le chapitre 13 des Actes nous dit ceci. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Réservez-moi donc Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et leur donnèrent congé. Bon, là aussi, c'est du style télégraphique. Comment l'Esprit Saint s'est-il exprimé dans la communauté? En tout cas, ils l'ont entendu. Et Barnabé et Saül se trouvent envoyés en mission par le Saint-Esprit et ils se mettent en route vers Chypre et encore accompagnés de Jean-Marc. Mais le texte nous dit qu'en chemin à Salamine, ils se contentèrent encore d'annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Alors, par habitude, routine ou manque de courage, je ne sais pas. En tout cas, après avoir parlé dans les synagogues, ils rencontrèrent des Juifs qui les rencontrèrent d'autres, etc., jusqu'à recevoir une invitation à Paphos du proconsul qui s'appelait Sergius Paulus, dont on dit qu'il était un homme intelligent qui souhaitait entendre la parole de Dieu qui était annoncée dans les synagogues. Mais bon, un homme va essayer de s'interposer, un certain Élimas, un magicien, nous disent les Actes. Alors là, étonnant texte, chapitre 13, verset 9 des Actes, « Saül, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit, « Toi qui es pétri de ruses et de manigances, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de déformer la droiture des voies du Seigneur ? Voici du reste que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle, et jusqu'à nouvel ordre, tu ne verras même plus le soleil. À l'instant même, l'obscurité et les ténèbres l'envahirent, et il tournait en rond à la recherche d'un guide. Voyant ce qui s'était passé, le proconsul devint croyant, car la doctrine du Seigneur l'avait vivement impressionné. » Alors, après ce petit texte, il y a plusieurs choses quand même à remarquer. D'abord, ce qu'on appelle doctrine du Seigneur, ce n'est visiblement pas qu'une affaire de théorie. Paul montre ici une puissance de clairvoyance, il discerne l'âme profonde de son interlocuteur et une capacité d'intervention miraculeuse quand même. Pas très rigolote, mais bon, l'homme devient aveugle. Je pense pour son édification, il faut toujours prendre le sens spirituel de la chose. Il croyait savoir, maintenant il sait qu'il ne sait rien. Alors, vous avez aussi remarqué sûrement une deuxième chose importante, c'est que le début du texte dit « Saül » ou plutôt « Paul ». C'est donc ici exactement le moment d'une métamorphose importante. Saül devient définitivement Paul. En fait, il s'agit de son nom latin qui est Paulus, le petit. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi justement à propos de la conversion d'un homme appelé justement Sergius Paulus, donc d'un nom identique? Alors, on a fait couler beaucoup d'encre sur ce texte, beaucoup fantasmé sur cette rencontre. On a même supposé que c'est le proconsul qui a adopté Saül et lui aurait donc transmis son nom. Mais à mon sens, ça colle pas du tout avec d'autres textes où saint Paul affirme qu'il est citoyen romain de naissance. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il... Mais bon, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement pourquoi Paul devient vraiment Paul, mais il est certain que cet épisode n'est pas anodin dans sa vie. D'autant qu'il faut encore remarquer ici la totale transparence de Barnabé. Jusqu'à l'arrivée à Chypre, on disait Barnabé et Saül. Donc Saül était le discret compagnon de Barnabé. On dirait même, certains ont dit, je trouve l'intérêt, l'apprenti de Barnabé. Et après la conversion du proconsul, ce petit passage s'arrête, et un autre épisode commence par ces mots, chapitre 13, verset 13, « Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et gagnèrent Pergé en Pamphylie. C'est alors que Jean-Marc se sépara d'eux pour retourner à Jérusalem. » Voyez la différence dans le voyage. C'est pas Barnabé et Paul, c'est Paul et ses compagnons. Paul est devenu le chef de file. Barnabé va prendre dorénavant la seconde place aux côtés de Paul, qui habite maintenant toute sa stature de missionnaire responsable du monde païen. Alors, tout ça s'est passé dans un tout petit épisode qu'on connaît à peine d'ailleurs. C'est une manière dont les actes sont écrits qui doit nous faire prendre l'habitude de les scruter avec attention, parce que dans une toute petite phrase peut se nicher beaucoup d'informations. Alors, le voyage missionnaire, donc dirigé par saint Paul, va se continuer jusqu'à un autre Antioche. Antioche de Pisidie. Donc, c'est toujours en Turquie, mais plus au centre, dans la province moderne, que je ne connais pas plus que l'autre, mais j'ai lu que ça s'appelait maintenant Antalya. Et pourtant, le texte des Actes nous dit que c'est toujours d'abord vers les Juifs, à la synagogue d'Antioche de Pisidie, que Paul va aller. Et c'est dans cette synagogue que Paul va prononcer un énorme discours qui vaut presque traité de théologie, pour tenter de convaincre les Juifs et essayer de les amener à reconnaître en Jésus le Sauveur d'Israël. Et d'ailleurs, le résultat de ce discours fut d'abord assez concluant. Un bon nombre de Juifs et de prosélytes, dit-on, s'intéressèrent à l'enseignement de Paul, mais finalement, ce discours va se retourner contre lui. Le verset 45 dit « Les Juifs furent pris de fureur et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. » Pas facile d'être missionnaire, hein ? Faut être courageux. Pourtant, les arguments de Paul étaient vraiment intéressants. C'est le même système qu'on a trouvé déjà chez Saint-Pierre et aussi Saint-Étienne, juste avant d'être lapidé, on reprend toute l'histoire d'Israël, finalement, pour démontrer pied à pied que dans toute cette histoire d'Israël s'inscrit une attente et que finalement, Jésus était venu pour répondre et combler toutes ces attentes. Paul démontrait que la vie, la mort et la résurrection de Jésus s'inscrivaient dans l'histoire d'Israël comme accomplissement des Écritures et accomplissement de la parole des prophètes. C'était là ce qu'il appelait sa bonne nouvelle. Je vous cite le verset 33 du chapitre 13. « La promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus. » Lisant ça, on se demande même, étant donné la clarté du discours, comment tous les Juifs n'ont pas compris, accepté et reçu cette démonstration. Mais il faut croire que c'est plus complexe que ça de recevoir les mutations de l'histoire. En tout cas, le refus et la colère des Juifs d'Antioche, de Pisidie, vont conduire Paul à une prise de position extrême. Il va se montrer radical. Je vous lis Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46. « C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens, car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. » Voilà, on pourrait dire que de nouveau dans ce texte, nous nous trouvons à un tournant décisif dans la vie de Paul, du moins sur le plan intérieur, car le voici vraiment décidé à ne plus donner la priorité aux Juifs, ce qui sous-entend qu'il donnera la priorité aux païens. Donc je vous lis maintenant la fin du chapitre 13 des Actes des Apôtres, après la grande décision de saint Paul. « À ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée. Mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. » Voilà, donc on est en face de deux réactions à l'annonce de la bonne nouvelle. La réaction de Juifs furieux, qui insultent Paul et le contredisent sur tout ce qu'il annonce. Et en face, la joie des païens. Ils reçoivent l'annonce, ils croient à la vie éternelle, ils croient au salut apporté par le Christ. Et bon, dans cette jubilation, ils étaient remplis de l'Esprit-Saint. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les choses continuent encore aujourd'hui, qu'on reçoive la jubilation et la joie de l'Esprit-Saint devant l'annonce de cette bonne nouvelle, et peut-être justement arriver à convaincre certains résistants en trouvant de meilleurs arguments que saint Paul, si c'est possible. Donc sur ces réflexions, je vous invite à la prochaine émission où nous trouverons donc Paul et Barnabé à Iconium, mais où il se passe la même chose, ils vont d'abord à la synagogue des Juifs. Il faut croire que malgré eux, c'est toujours d'abord vers les Juifs que les portent, mais c'est aussi là qu'ils connaissaient du monde. Donc la tendance est d'aller d'abord vers ce qu'on connaît et ensuite d'aller vers ceux qu'on ne connaît pas. Donc nous verrons comment ça se passe à Iconium et puis de plus en plus dans ce qu'on appelle l'Europe par rapport à la Turquie qui est considérée à ce moment-là comme plutôt l'Asie. Au revoir, chers auditeurs. À très bientôt.